Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up et avec un ventriloque qui remplit des zéniths. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Scott Fins.
Hello darlings, bienvenue à tous et vous l'aurez deviné, le ventriloque qui remplit des zéniths, c'est Jeff Panaclock. Salut Jeff, comment vas-tu?
Salut. Mais je vais très bien, je sors de scène. Il est 2h du matin.
C'est ça.
Ouais.
C'est un truc de fou.
C'est la grande première du podcast aussi tard ou aussi tôt, je sais pas.
Vous avez été trop gentil de m'attendre parce que vraiment, ça a traîné, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Il y a eu blessure.
Écoute, il y a blessure depuis quelques temps et je t'avoue que là, je suis sorti de scène un peu en vrac. Et donc, voilà, le kiné m'attendait pour me remettre un petit peu en place parce que j'ai un spectacle très physique qui me fatigue beaucoup.
Et c'est ton bras droit, je suppose, qui est sollicité et qui te massacre?
Alors, très bizarrement, non. C'est tout le côté gauche qui compense. Et en fait, je suis un peu comme un tennisman. Ouais, c'est vrai que je travaille beaucoup avec le bras droit, mais j'ai tout le côté gauche qui compense et j'ai des problèmes au pied aussi. Enfin, voilà, c'est du piétinage sur scène, quoi.
Ouais. Oui, parce que ton bras droit, il doit être super détendu pour pouvoir... travail, il doit être totalement libre, non? Et tu supportes tout avec le gauche, j'imagine.
Ouais, mon bras droit est pas si détendu que ça parce que je suis pas un mec très détendu de base. Mais
stressé, mon bras droit. Enfin...
Voilà, mon bras droit est très stressé et très stressant surtout. Mais je m'y fais. Mais c'est vrai que je me suis pas trop occupé de moi là pendant toutes ces années et je commence à ramasser quoi.
Le mec, il a 30, 35 ans, c'est ça?
37, ouais.
37, waouh! Et nous, on a 40 ans passé, là. Et donc.
Je suis plus vieux que toi, Scott, je crois.
Ah ouais?
Ouais, j'ai 42, moi.
Ah oui, c'est vrai, voilà, c'est le Yoda du truc. C'est bien.
Il y a une certaine honte, je sais pas si vous le sentez, des fois chez les humoristes, à dire, bah, ouais. En particulier chez les jeunes humoristes, ils veulent pas dire depuis combien de temps ça fait qu'ils font ça.
Ah ouais?
Oui.
Ah ouais,
ouais,
je
ils
peux te le dire.
minimisent. Toi, ça fait
Mini.
combien?
Moi, ça fait 22 ans.
Waouh. T'as pas
Ça
encore
fait 22
percé,
ans.
c'est un truc de fou.
Ouais, ça viendra, je
Heureusement.
lâche pas l'affaire, tu vois, mais je suis têtu.
Heureusement qu'on est là. Parce que, ouais, c'est vrai, moi j'ai toujours eu. Moi j'avais la prétention de donner des cours de stand-up. Ils me disent, ça fait combien que tu le fais? Ben, 2 ans. Alors je sais, on s'en fout.
Après, tu as les cours, hein. Après,
Ah
ils ont les
oui,
cours qu'ils méritent.
voilà. En plus, c'est moi qui les paye. Mais c'est vrai que, Jeff, j'ai vu le spectacle et c'est waouh. C'est une énergie de
Bah
fou,
déjà,
quoi.
je voulais
Ça fait
vous
longtemps.
remercier pour l'épisode où vous avez parlé du spectacle. Ça m'a touché aussi de voir que mes efforts ne sont pas faits pour rien. Et tous vos bons mots m'ont vraiment touché. Donc, merci pour ça. Et je voulais aussi vous remercier parce que moi, j'ai découvert votre podcast il y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a beaucoup aidé à me remettre en question et à me remettre au travail. Je suis déjà quelqu'un qui travaille beaucoup, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté avec Briac. C'est un podcast qui m'a éveillé, voilà.
Wow.
Donc je voulais vous remercier pour ça parce que je pense que quand on débute, ça doit beaucoup aider aussi, mais pas que, parce que moi j'ai l'habitude de la scène et c'est vrai que j'avais jamais trop scientiser, je sais même pas comment le dire, l'humour, en tout cas la technique de la blague, parce que j'ai
Ouais.
toujours fait ça instinctivement, et c'est vrai que ça m'aide à m'améliorer, donc merci pour ça.
Ouais, c'est cool.
Écoute, avec plaisir, ça sert à ça, mais c'est vrai que quand tu as commencé le podcast, tu as commencé à vraiment beaucoup les consommer
Oui.
et absorber le truc, c'était un cauchemar parce que tous les jours tu me disais, c'est quoi le prochain spectacle à voir? Je t'envoyais un spectacle et une heure après, il était vu. Il me dit, oh là là, il va m'épuiser.
Ouais.
Et pourquoi tu as déclenché, pourquoi tu es passé en mode absorption de connaissances comme ça à ce moment-là?
Ça part de mon nouveau personnage. Voilà, j'ai créé un personnage de stand-upper qui s'appelle Jerry, que Scott a vu sur scène. Et c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je veux faire ce personnage. qui était compliqué à monter. Et puis, il faut avoir aussi un peu les couilles d'aller au bout de quelque chose qui est complètement inconnu pour moi, c'est-à-dire cet art du stand-up au départ et les comedy clubs, etc. C'est des endroits que je ne fréquente pas forcément dans mon travail. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage, j'ai voulu savoir comment réfléchissaient, comment travaillaient les stand-uppers. À la base, c'était, vous l'avez dit dans un précédent podcast, à la base, c'était pour me moquer, clairement, et pour en faire un stand-upper un peu maladroit, on va dire. Et puis, je me suis pris au jeu, en fait, tout simplement. Je me suis pris au jeu et les premiers spectacles que j'ai regardés étaient français. Et puis ensuite, j'ai basculé dans le côté obscur. Et là, bah, Briac, t'as compris, quoi. C'était la fin, quoi. Et même, voilà, c'est à la maison, je ne pensais qu'à ça. J'en ai bouffé dans tous les sens, les bouquins, les vidéos, les Netflix, tous, tous,
Ah
tous.
ouais.
J'avais besoin de me nourrir de ça. Et finalement, je me suis pris au jeu et je me suis amusé à construire un stand-upper qui fait des vraies blagues, quoi.
Ouais.
Et
Il est très drôle.
quand on dit qu'il a tout, c'est-à-dire il y a les carnets de notes du stand-upper, il y a tous les livres de stand-up, il y a les carnets d'exercices des stand-uppers, il y a les podcasts. C'est vraiment l'obsession pour un personnage qui est nouveau, qui est totalement indispensable. Il n'y avait pas besoin de ça sur les prochains spectacles. Et c'était juste le plaisir d'ajouter un truc pour les dernières dates, pour le public, je suppose aussi,
Oui, mais
d'arriver
d'ailleurs,
avec.
tu me l'as dit à un moment, tu m'as dit, mais t'es pas obligé, en fait. Ton spectacle, il tourne depuis 4 ans, t'as 2 heures de show. Pourquoi? Pourquoi tu
C'est
te prends
ça.
la tête? Je sais pas, oui, c'est vrai que ça fait un an que j'étais pas monté sur scène, moi, avec le spectacle, et j'avais très, très peur de repartir dans une routine de spectacle. Alors, attends, j'ai des problèmes de riche, hein, parce que je suis très heureux dans mon spectacle et je m'amuse et je le joue complètement différemment tous les soirs. J'improvise, je m'amuse avec ce spectacle. Et je sais pas, j'avais besoin de me remettre en question, de me remettre en danger, de créer quelque chose. Et c'est vrai que moi, la création, ça passe par un personnage. Alors évidemment, c'est moins easy que quand tu viens juste tester des blagues. Tu testes tout un univers, quoi.
Oui, il y a un truc intéressant et tu me diras si ça te parle. Des gens, quand ils parlent des cours de stand-up et un peu la science de l'humour, etc., souvent on dit que soit tu es né avec, soit pas et tu peux pas l'apprendre. Et il y avait Greg Dean qui disait, le problème avec ça, c'est que les gens qui sont très talentueux, qui font rire comme toi tu le fais, ils le font, ils sont bons. Et donc, ils ne savent pas expliquer comment ils le font. Et donc, ils s'imaginent qu'on ne peut pas l'apprendre. Alors que, et toi, maintenant, tu as vu. Déjà, j'étais avec un élève de stand-up à ton spectacle. Et je lui ai dit, tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Genre, les blagues, parce que toutes les structures, toute la structure, elle est présente. Et tu as d'énormes rires pendant tout le long du spectacle. Et là, tu fais, ah, est-ce que tu as reconnu. Ah tiens, ah ça c'est ça comme ça que ça s'appelle le truc que je fais avec un tel personnage ou quoi. Et ça du coup ça doit être intéressant, je sais pas. Comment est-ce que tu testes une blague? Quel est ton processus?
Mais j'ai découvert un peu ça avec vous en parlant beaucoup aussi avec Briac, et c'est vrai que j'ai jamais analysé mon écriture. C'est-à-dire j'ai toujours écrit et puis d'ailleurs je trouve que j'écris sans me le jeter des fleurs, je trouve que j'écris de mieux en mieux et j'ai envie de dire heureusement, c'est-à-dire que bah, je me perfectionne et mon premier spectacle, j'ai beaucoup de mal à le revoir parce que j'aimerais réécrire
Bah oui.
90% du spectacle, quoi.
Bah oui.
Et c'est vrai, quand j'ai commencé à m'intéresser à. Donc en lisant les bouquins, en écoutant le podcast, etc., mon metteur en scène s'est arraché les cheveux parce qu'on a recommencé les lectures du spectacle et là, je m'arrêtais à toutes les phrases. À toutes les phrases, je m'arrêtais. J'essayais de décortiquer, de savoir comment j'avais écrit la blague. Comment je pouvais l'améliorer. Et la blague, elle s'améliore pas spécialement que dans l'écriture, elle s'améliore dans le jeu, elle s'améliore dans le rythme.
Ben oui.
Et voilà. Et aujourd'hui, moi, pour avoir regardé beaucoup de stand-up eh bien, je suis plus à l'aise dans mes propres stand-up à moi, c'est-à-dire que je joue aussi des parties seules dans le spectacle, et je me sens bien alors que je ne me sentais pas forcément bien avant, et c'est vrai que ça m'a aidé à me sentir mieux et avoir plus confiance en moi, même dans le jeu des autres personnages. Donc le fait de lire des bouquins, d'écouter les podcasts et de me dire bah, finalement ce que j'apprends ou ce que je lis, c'est des choses que je savais faire, mais que je n'utilisais pas forcément finalement. Je le faisais comme ça, mais maintenant, quand j'écris une blague, je réfléchis peut-être un peu trop. Ça, c'est peut-être un peu mon défaut, où je vais me prendre la tête sur le moindre mot, la moindre phrase, etc. Je vous entendais parler dans l'ancien podcast avec l'intelligence artificielle pour utiliser des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, etc. C'est vrai que moi, j'ai des personnages, ils ont chacun un langage précis. Et donc forcément, bah, une blague que je vais écrire pour Jean-Marc ne va pas aller pour Jackie, ne va pas aller pour Christian, etc., etc. Donc c'est vraiment une prise de tête perpétuelle quand on écrit les blagues. Donc c'est aujourd'hui, c'est un vrai travail. Et pour moi, ça ne l'était pas avant de découvrir ça, quoi.
Et le mec était heureux avant. J'ai dit, oh, merde, maintenant.
Ah ouais, complètement. Ah, mais oui. D'ailleurs, ça me met la pression parce que... Parce que là, je vais devoir partir écrire le prochain spectacle et je me dis, mais comment je vais faire en repartant de zéro sans perdre quand même l'insouciance et le côté un peu... je fais ça sans... Je vais dire des gros mots, mais sans réfléchir, quoi. J'écris mes sketchs et des dialogues comme ça qui m'amusent, qui me font rire. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, avec ce côté technique que j'ai dans un petit coin du cerveau, bah, j'ai envie de m'en servir tout le temps, quoi.
Bah, il y a eu deux trucs. Il y a eu... Là, récemment, tu as sorti une vidéo qui parodiait un peu le clash qu'il y a eu entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre.
Oui.
Et quand tu as sorti la vidéo, c'était toi qui répondais en tant que toi à Jean-Marc, qui t'avait d'un premier temps attaqué sur les réseaux.
Oui.
Je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, putain, techniquement, je ne sais pas la faire, ces blagues-là. Tu as tout un panel de blagues que je ne comprends pas et que je ne sais pas faire parce que c'était des blagues qui reposaient sur... la prononciation des mots, sur des petites bêtises, sur des petits jeux de mots.
Ouais.
Et toi, ouais. Tu m'as envoyé, mais tu suranalyses, il n'y a pas de technique. Alors que pour moi, c'est très technique.
Non. Non, bah là, clairement, j'ai écrit une vidéo à l'arrache dans ma cuisine. J'avais besoin de... J'ai fait la première vidéo avec Jean-Marc. Et le lendemain, je me suis dit, bah, il faut que je fasse la réponse avec moi-même, quoi. Donc, j'ai écrit ça à l'arrache dans ma cuisine et j'ai tout de suite tourné juste derrière. Mais là, vraiment, il n'y a pas de technique. C'est juste que j'écris ma première version qui n'est pas du tout drôle. Et là, d'un seul coup, je me dis, mais tiens, attends, je peux mettre un jeu de mots là. Ah, ben, je peux mettre... tu vois, je relis et puis je trouve, tu vois, stupéfaction, stupéroir. Je sais pas, ça me fait rire.
Ça, c'était très drôle.
C'est ouais. Des trucs débiles qui me font rire, moi. Et après, je lis les commentaires et je vois que y a des gens qui sont réceptifs aussi à ce genre d'humour que je ne peux pas trop utiliser sur scène en plus. Je m'en suis rendu compte, on en a parlé aussi, il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que dans mes spectacles, l'humour que j'aime, moi j'aime beaucoup l'humour absurde, j'aime beaucoup justement tout ce style d'écriture, l'humour absurde, les jeux de mots, etc., sont plus difficiles à vendre dans un style comme le mien, où les gens viennent vraiment chercher des grosses punchlines, un peu gratuites des fois, un peu faciles parfois, ce qui peut être frustrant quand tu as envie de peaufiner et d'avoir des blagues un peu plus réfléchies, quoi. Mais le public est... Voilà, mon public n'est pas trop réceptif à ça. Voilà, ils veulent des coups de poing dans la gueule. Et donc, voilà, il faut chercher, quoi. Il faut chercher.
Moi, c'est un truc que j'ai apprécié beaucoup dans ton spectacle, c'est que tu sépares les trucs. Voilà. Il y a des trucs dans ton cul. Super. On rigole.
Il y a beaucoup, hein.
Il y a beaucoup. Genre, c'est... Bon. Mais il y a des moments où tu t'exprimes et que tu dis des trucs avec un fond où tu ne cherches pas forcément à faire rire. Alors que quand des gens qui sont dans l'humour, des stand-uppers, ils essayent de se donner des airs, genre pour dire dans ton cul, mais de façon un peu à regarder, mais je suis quand même très intelligent et si je dis ça, c'est... Là, là. Toi, c'est
moi, ça les gens, ils ont compris que je n'étais pas intelligent depuis longtemps.
C'est décomplexé, quoi. Tu fais des trucs... les trucs trash, les trucs, mais c'est une joie. La première blague de Jerry Goulry, c'est ça, Jerry Goulry.
Ouais.
La première blague, Ah oui, il y a des enfants. Bam, direct, ça met, ça, ça calme tout de suite. Et les, j'étais dans le public, je vois les parents des gosses, ils sont pas là. Oh, gna gna, c'est vulgaire. Non, ils sont, c'est une joie. Et ça, c'est super cool. Et après, quand tu as des trucs sérieux à dire, tu les dis. Et
oui, oui, mais oui, oui, après, j'essaye de contrebalancer avec, avec du fond, comme j'aime bien dire, mais j'aime bien faire passer des messages dans mes spectacles. Mais c'est vrai que bah, généralement, ce qui prend le dessus, c'est la vulgarité, on va dire, et les textes un peu musclés, quoi. Mais moi, j'aime, franchement, j'assume de faire des grosses vannes faciles de temps en temps, parce que vraiment, ça me fait rire. Et il n'y a rien de mieux qu'une explosion de rire sur une phrase qui est complètement hyper trash ou hyper vulgaire, et d'entendre cette vague de rire un peu gêné et un peu genre « Ah, mais vraiment, il a dit ce qu'on... » On a eu un gros débat avec mon manager sur le deuxième spectacle où Jean-Marc parle à une femme du premier rang et lui dit « Tu viens à la maison, on boit du vin rouge et je t'encule. » Bon, là, c'est sorti du contexte. Hein. Mais c'était un gros débat parce qu'il y avait un rire derrière, moi, qui me faisait, mais que ça me... Tu vois, rien que d'en parler, ça me hérisse les poils parce que vraiment, ça me procurait une émotion et des frissons d'entendre ce rire-là. Et on s'est battu avec la prod et ça, parce qu'ils trouvaient ça très, très vulgaire. Et je dis, mais en fait, je l'assume à 1000%, je le cache même pas, je le fais même pas, du t'encule. Non, c'est, j'y vais à fond, parce que plus tu vas à fond, et plus, en fait, c'est l'interdit que tu casses le mur, en fait. Et ce rire-là, il est magique pour moi, quoi. Donc, alors, évidemment, je vais pas faire ça pendant tout le spectacle, mais il y a des petits moments comme ça dans le spectacle qui sont jouissifs.
Donc, on peut dire que Jean-Marc encule la dame au premier rang et la prod.
Complètement.
Et vous aussi. Donc.
Non, mais je suis très à l'écoute en plus. Vous en parliez dans le précédent podcast. J'ai pas de problème avec les retours, moi. C'est-à-dire que je sors de scène. Bon, à part si on me dit t'es nul et tout, ça, j'ai de l'ego, hein, donc, comme tout le monde. Mais après, les retours et rentrer dans le détail des sketchs, je le fais tout le temps avec mon metteur en scène. Généralement, on débrief tout de suite en sortant du spectacle. Je suis pas amoureux de mes blagues. Quand on sort et qu'il y a une blague qui a pas fait rire, on la teste une fois, deux fois. Si elle marche pas, je la bazarde, même si elle me faisait kiffer. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Et j'ai pas de problème à l'entendre non plus. Et des fois même, j'ai envie de jarter des vannes. Et c'est mon metteur en scène qui fait « Non, elle est bien celle-là. » Et puis tu peux pas toujours non plus avoir des vannes qui font rire. Moi, je suis un boulimique du rire. Et tu peux pas non plus toujours avoir des blagues où ça explose. Donc, il faut faire avec ça aussi.
Ouais, les gens ont besoin de respirer un peu aussi. C'est un peu l'ombre et la lumière. C'est un peu parce que si tu les éclates pendant 10 minutes, après, ils meurent, quoi. Donc, c'est un peu... Il faut que les gens respirent un peu.
Donc, moi, j'ai beaucoup de questions. Jeff fait un truc que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. C'est qu'en fait, il a des versions des sketchs. C'est-à-dire qu'il te présente... Lui, c'est un peu en accéléré, mais tu as la V1 le matin à 10h et tu as la V4 à minuit le... C'est possible qu'il y ait eu trois versions, mais avec des changements, c'est pas une phrase. C'est vraiment des gros blocs qui changent et on peut retracer toutes les... J'ai rigolé Rio, je pense qu'il est... Sans mentir, je crois qu'il doit y avoir 15-16 versions de J'ai rigolé Rio, facilement.
Ouais, plus que ça, je pense. Ouais. Faudrait que je demande, parce qu'après, bon, des fois, on triche un peu, parce que des fois, on change de mots et puis ça fait une nouvelle version. Mais c'est vrai que là, sur la partie création pure, quand je suis venu te chercher et que je t'ai demandé de l'aide, c'était les moments où on allait aller au Comedy Club et je changeais tout le temps. Le jour où on est venu au Jamel Comedy Club, entre le sketch de l'après-midi et le sketch du soir, on a bazardé, on a complètement twisté le truc, quoi. Enfin, ouais, c'est. Alors j'ai eu des trous de mémoire, j'ai eu tout ça, mais ouais, j'ai besoin que ça fonctionne et j'ai du mal à rester sur un échec, donc il faut mettre les mains dans le cambouis, hein, de toute façon.
Surtout quand tu l'as montré au public, le lendemain, il s'est repris 50% de modifications le texte.
Ouais.
Parce que tu as pu identifier ce que tu as dit, ok, ça c'est bon, et là j'ai fait une fausse piste. Et la fausse piste, elle est vachement intéressante parce que c'est une fausse piste que intuitivement je sentais, mais qu'on ne pouvait pas vraiment matérialiser, c'était le fait que le personnage était devenu super méta. C'est comme toi, tu étais devenu un spécialiste stand-up, il arrivait à déconstruire tout le stand-up, ce qui t'intéresse, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse Scott, mais le public, il a fait hop, 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 ça m'intéresse pas du tout que tu parles.
On ne sait pas de quoi tu parles, en fait.
Mais oui, clairement. C'est drôle, ouais.
Clairement.
Ouais.
J'ai ressenti ça tout de suite. Et c'est rigolo, on en parlait tout à l'heure en sortant de scène avec mon metteur en scène, parce que Jerry a particulièrement bien marché ce soir et je me sens vraiment, vraiment à l'aise avec lui. Et ça fait du bien. Parce que je m'y attache. Je m'attache au personnage et limite, il me fait rire maintenant. J'ai l'impression vraiment d'avoir un pote qui fait du stand-up à côté de moi et ça me fait marrer de rigoler à ses blagues. Et on se remémorait ça tout à l'heure parce que moi, j'étais fier de mon premier sketch. Donc, cette fameuse V1 ou V4, quand on est arrivé la première fois au Comedy Club, j'étais hyper fier. Je me suis dit, je vais l'en remettre plein la gueule, quoi. Et en fait, non, ça n'a pas marché comme ça. Ça n'a pas marché comme je le voulais. Et on aurait pu retester 1000 fois ce sketch-là. Mais en fait, j'ai fait une espèce d'overdose où il fallait que je change limite, que je joue complètement un autre sketch, quoi.
Et il y avait une possibilité de le faire marcher, en fait. Moi, j'aurais pu créer un environnement. Par exemple, tu faisais première fois de Yacine Bellous au milieu des stand-uppers. On mettait tous les stand-uppers, on te mettait après. On aurait dit, ah oui, d'accord, ils s'appuient sur ce qu'ont fait les autres pour faire quelque chose. Mais comme toi, tu as ce besoin que ce soit immédiat, en plus, il ouvre le show, il s'appuie sur rien, quoi. Il faut qu'il soit drôle en lui-même et qu'il soit explosif tout seul.
Oui, ouais. Moi, je suis vachement attaché aux gimmicks. Tous mes personnages ont des gimmicks bien précis, sauf que j'ai toujours l'impression que je vais pouvoir les choisir, ces gimmicks, alors que c'est pas moi qui dois les choisir, c'est le public, en fait, qui choisit le gimmick. Et à chaque fois, je me dis, je vais le sortir 50 fois dans le sketch, les gens, ils vont... Et non, en fait, ils vont s'accrocher à une autre phrase à laquelle j'aurais jamais misé. Et là, j'avais misé sur la phrase par applaudissement. Et c'est vrai que tu vas voir, par applaudissement, le prochain stand-upper qui va venir derrière moi et qui va dire par applaudissement, il va se faire. En fait, non, ça n'a pas fonctionné tant que ça en Comedy Club. Et voilà, ça n'a pas fonctionné, quoi.
J'ai beaucoup aimé, en le voyant, j'ai beaucoup aimé le ton. Le ton, c'est oui, en soi, il n'est pas ce que tu par applaudissement n'est pas drôle en soi, mais le ton, j'ai adoré le ton justement de la voix, par applaudissement, c'est très drôle, c'est très très drôle, ouais. Et oui, moi je m'attendais, waouh, parce que quand on voit des gens se foutre des stand-uppers faire des vidéos ou quoi, où ils se foutent de la gueule des stand-uppers, on trouve toujours ça très drôle parce qu'on reconnaît, par exemple, le truc par applaudissement. Moi, c'est insupportable, quelqu'un qui fait « Par applaudissement, il y a des gens de Bordeaux ?»
Ouais, super. C'est des sondages, hein, ça devient des sondages, c'est plus sketch. Hein.
Et tu fais rien avec... Surtout, tu fais rien avec l'information. Genre, c'est juste pour « Ah tiens, parlant de Bordeaux, boum !» Ils s'en foutent. Et ça, je trouve ça très, très... Moi, j'ai beaucoup de questions, c'est sur ta voix. Et donc, tu me diras, après, je peux... Moi, j'ai vu, bon, pour moi, le moment où voilà, j'étais jalousé, j'avoue, pendant ton spectacle, c'est pendant les chansons. Et je me suis dit, quel kiff! Il doit se faire. J'imaginais que pour toi, c'est un kiff de fou de chanter, de danser quand tu fais des trucs, c'est super. Et après, je me demande, est-ce que ta voix, est-ce que quand tu chantes, ou est-ce que tu portes une attention particulière quand tu chantes pour garder la voix pour le reste? Comment tu la travailles, ta voix?
Ma voix, je la travaille avec un coach vocal, beaucoup. Là, on a retiré... Alors là, c'est plus easy parce qu'on a retiré un personnage qui était dans l'ancienne version du spectacle, encore une fois. Et qui me fatiguait énormément. Donc, c'était le personnage du Covid qui avait une voix très, très rock et qui me fatiguait énormément les cordes vocales. Donc, j'ai appris encore une fois un peu trop tard. C'est un peu comme l'histoire du kiné là. J'ai appris un peu trop tard à prendre soin de ma voix parce qu'avant j'étais jeune et que ça se faisait tout seul, quoi. Voilà. Et puis sur le deuxième spectacle, j'avais mis la barre un peu plus haute que le premier spectacle. Et là, je me suis pris à mon propre piège. J'ai perdu ma voix plein de fois. J'ai fait toute une session à Paris au Théâtre des Variétés sous cortisone, avec des piqûres tous les jours. C'était une tanasse. J'avais envie d'arrêter mon métier, clairement, parce que j'avais l'impression de voler le public qui payait très cher un théâtre parisien pour venir me voir, alors que moi, je n'étais pas capable de faire deux voix. Donc, il a fallu que je me discipline, hein, clairement. Voilà, donc ORL, cours de chant, coach vocal, voilà, c'est obligatoire en fait quand on fait ce métier-là.
Oui,
comme les chanteurs, sauf que la modulation, je pense que les imitateurs doivent avoir les mêmes problèmes. Le fait de changer de voix, ça fatigue énormément, quoi.
Oui, parce que moi je te voyais, et surtout quand tu es arrivé à mon préféré, c'est maintenant j'ai un doute. Johnny Hallyday, Jackie, voilà, j'allais dire Jerry, mais non. Jackie, c'est mon préféré. Et je me suis dit, mais comment tu fais pour avoir un timbre aussi aigu pour Jean-Marc et un truc aussi graveleux, comme ça, pour. C'est graveleux qu'on dit? Non.
Ouais,
c'est
ça, bon.
Ouais. Voilà. Ouais, un peu. Et faire tout ça sainement. Parce que ça doit être hyper violent pour la voix.
Ouais. Après, j'ai une hygiène de vie. J'essaye de manger bien, ce qui n'est pas toujours évident en tournée. Mais je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Voilà, je prends soin de mon outil de travail parce que je sais que le jour où je ne peux plus m'en servir, je n'ai plus de travail, en fait, clairement. Donc, en tant que ventriloque, voilà, c'est. Quand tu es humoriste, tu peux monter sur scène avec la voix cassée. Bon, voilà.
Ah oui, mais c'est toi, t'as pas
moi, moi, ça fonctionne pas, quoi. Et je me rappelle une date à Lille sur le deuxième spectacle où j'ai eu des piqûres de cortisone avant de monter sur scène. Et malgré ça, ça voulait pas. Et je me suis arrêté en plein milieu du spectacle. Et j'ai dit, je suis désolé, mais en fait, je sais pas comment je vais terminer. Et après, voilà, il y a l'adrénaline, le public qui te porte, qui t'applaudit, et puis tu dis, allez, on va au bout, et puis voilà. Après, tu prends ton équipe et tu dis, bon, maintenant, on va faire des secours, et puis on va enregistrer les chansons en playback au cas où, et puis voilà, on va essayer de faire attention, parce que quand on joue beaucoup, forcément, on n'a pas tout le temps la voix au top.
Moi, j'ai appris un truc avec toi, Jeff, et ça m'a bouleversé mes pensées. C'est que je me suis dit, OK, quand il doit répéter, il a son metteur en scène, d'accord. Quand il doit préserver sa voix, il a un coach vocal. Quand il doit aller faire du sport, il a un coach pour le sport. Quand il a un problème de stand-up, il m'envoie un message.
Oui.
S'il a un problème plus compliqué, il peut contacter un ami, Maurice, Gad ou quoi, n'importe qui. Et me dit, putain, mais il utilise trop bien son réseau et il mise sur lui en permanence. C'est-à-dire, il se forme et il dit, bon, ça, c'est pas ma spécialité. J'ai besoin de toi pour ce truc-là. Et il va prendre le savoir et la connaissance. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi tu m'as fait dépenser plein de sous. Parce que du coup, j'ai commencé moi aussi à investir sur le truc, à me dire, mais non, mais arrête, tu es limité sur ça. Achète, paye quelqu'un pour faire ça. Ah, et là, tu vas sortir, je sais, c'est des fringues, des goodies, je sais pas, ou c'est peut-être pour Jerry que tu as fait le logo, là.
Ah non, non, c'était c'était pour les dates. C'est pour les dates que je fais en privé. Voilà, on en a parlé. Je fais, bon, voilà, les humoristes font des ménages, des privés de temps en temps. Et c'est vrai que moi, j'en ai jamais fait. Et donc, on m'a proposé de commencer à en faire, tu vois, au bout de 10 ans, comme quoi c'est pas mal. Non, j'ai beaucoup refusé, en fait, pendant beaucoup, beaucoup d'années. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Surtout que j'ai envie d'écrire et de retester des nouvelles choses pour les prochains spectacles. Donc, je me dis, bah, c'est une occasion d'avoir un public, quoi. Sauf que comme je ne sais pas faire les choses à moitié, je n'arrive pas à monter sur scène comme ça. Donc, ouais, avant de commencer à écrire le sketch, je me suis dit, comment je vais m'habiller? Je vais me faire une tenue de scène pour les privés.
Trop drôle.
Et j'ai appelé mon habilleuse et j'ai dit, voilà, j'ai fait un logo sur Photoshop. Est-ce que tu peux me faire un écuisson, voilà, et ça, en regardant Dave Chappelle qui avait son petit écuisson sur le côté, je me suis dit, putain, mais c'est trop classe, en fait. Donc je me suis dit, bah, je vais me faire mon petit écuisson, je vais pas oser le mettre en télé ou dans mes spectacles, mais en tout cas, je le ferai comme ça dans les privés. J'aurai ma petite veste qui va bien, quoi.
Trop wow. Drôle. Je savais pas que c'était pour ça.
Je suis un gamin, moi. Je suis un gamin, hein, clairement.
Bah, écoute, moi, l'anniversaire de ma fille, c'est le 1er juin. J'imagine, elle me dit, ouais, je t'ai vu remplir un zénith et tu vas faire un privé. Moi, la question que je vais pas poser, mais que sûrement tout le monde se pose, c'est le devis, t'imagines? Ça me fait penser à George Michael. Tu sais, George Michael qui disait « Ouais, maintenant, je chante. » Il faisait des privés pour des gens qui me font avoir l'air pauvre. Et le mec était « Ah ouais. » Bah oui, parce que... Voilà, on est curieux, mais on ne va pas poser la question.
Si, on peut poser la question. Moi, je vais te répondre. Pour moi, comme ça, tu as une range de trucs. Moi, aujourd'hui, quand on me propose un privé, c'est entre 2000 et 3000 euros qu'on me donne pour... Après, il y a des spécificités. Par exemple, si j'écris quelque chose de très orienté sur la boîte, c'est souvent des boîtes. Hein. Quand on me demande, par exemple, 10 minutes sur la boîte, c'est là où c'est le plus cher parce que tu dois générer du matériel spécifique pour eux que tu ne joueras qu'une fois que tu n'utiliseras plus. Quand on te demande de faire juste un passage de 10-15 minutes extrait de ton spectacle, là, c'est un peu plus simple. C'est moins de stress et tu peux un peu revoir tes tarifs à la baisse. Ce qui va compter aussi, le deuxième paramètre, c'est combien de personnes. Le faire devant 100 personnes, ce n'est pas pareil que le faire devant 2000 personnes. Il y a des boîtes qui peuvent se payer des Bercy, des trucs comme ça. Dans ce cas-là, bon, ben, ils se payent la complète et c'est normal que ta facture arrive à 10, 15, 20 000, 30 000 euros. Moi, j'ai déjà vu sur un humoriste un 40 000 euros pour France Télécom, pour Orange. Et ce n'était pas déconnant pour eux.
Mais oui. Et oui, mais moi dans ma tête, quand tu dis privé, c'était genre des privés, genre particuliers.
Des mariages.
Oui, voilà, c'est un truc débile. J'ai pensé à mon
non, pote. J'ai envie de te dire, si j'ai envie de faire un mariage ou un anniversaire un jour pour faire plaisir à quelqu'un, je pense pas que je le ferais payer, quoi, tu vois.
Bah oui.
J'ai déjà fait mariage. Hein.
Ah, ben bah, c'est toute ma vie, les mariages. J'ai commencé par les mariages. Mes premiers sketchs étaient à 15 ans dans des mariages, des baptêmes, des soirées privées, comme on dit, de société qui veut son petit ventriloque du quartier. Ouais. Voilà.
Parce que tu as été le ventriloque du quartier ?
J'ai été le ventriloque du quartier, moi. Tu sais, moi, j'ai commencé par la magie et je faisais... Je faisais des soirées magie ventriloquie, comme dirait l'autre. Et donc, ouais, je travaillais pas mal quand même. Je travaillais pas mal, sauf qu'au bout d'un moment, on me disait « Arrête les tours de magie, Jean-Marc, il est beaucoup plus drôle. » Donc, j'enlevais les tours au fur et à mesure et puis je me suis retrouvé qu'avec Jean-Marc.
Jean-Marc, il est arrivé comment, Jean-Marc ? Parce qu'il y a une voix, il y a un design, il y a une façon de parler. Il a été trouvé vite ou c'est un personnage qui a évolué ?
Ah non, il a évolué, clairement. Il a évolué, il a fait un gros bond. Quand j'ai commencé à faire de la télé à l'époque avec Patrick Sébastien, il a fait un gros bond parce que je jouais dans des cabarets et c'est vrai qu'il a fallu se mettre une pile quand tu commences à aller en télé. Tu peux pas changer de marionnette toutes les semaines, tu vois. Ah, tiens, je vais bouger l'œil, etc. Je vais lui mettre les poils comme ci, comme ça. Et puis la voix, je vais la faire un peu plus aiguë cette fois-ci. Puis la semaine prochaine, on verra. Il faut que les gens ils puissent identifier le personnage assez rapidement. Donc, Patrick m'a beaucoup fait travailler au moment où j'ai commencé chez lui. Et le personnage est vraiment né clairement chez lui, quoi, après. Même s'il existait depuis très longtemps.
Mais il s'est optimisé pour l'écran.
Moi, je me suis professionnalisé aussi. J'ai fait appel à un marionnettiste qui a fait un beau Jean-Marc comme on le connaît aujourd'hui, alors que les premiers Jean-Marc ne ressemblaient pas du tout à ça.
Oui, c'est ça, j'ai remarqué. Je n'ai pas comparé, mais j'ai vu que il était très doux à la caméra, quoi. Très expressif.
Tout à fait.
C'est un travail de fou, ça.
Et puis voilà, et surtout Jean-Marc était tout nu au début, pendant longtemps. Pendant toute l'exploitation du premier spectacle, Jean-Marc était tout nu et à partir du deuxième, on a commencé à l'habiller. Et je sais pas, il s'est passé... On a monté d'un step, c'est con, hein, mais juste mettre un blouson, un t-shirt, ça a donné tout son sens. Alors que c'est moi qui refusais au départ. Je voulais pas que ça fasse poupée qu'on habille comme des enfants. Et finalement, on s'éclate et j'ai même des gens qui me demandent où s'habille Jean-Marc aujourd'hui et qu'on pourrait même faire du... une marque de fringues portée par Jean-Marc.
J'imagine à chaque date, il y a les goodies et Jean-Marc se vend à chaque date.
Ouais. Ouais, ouais. Les gens achètent des peluches, des t-shirts, des mugs, etc. C'est pareil, on a commencé ça complètement à l'arrache sur le premier spectacle. C'était mon papa qui faisait le merchandising, qui montait le stand, etc. Et puis à un moment donné, quand on a vu les salles grandir, etc., mon père, il suivait plus la cadence. Donc il a dit, on va peut-être se professionnaliser. Donc là, voilà, on a fait appel à une équipe pour venir nous aider. Mais voilà, on a fait construire nos peluches nous-mêmes, on les a fait fabriquer. Moi, je suis assez comme ça. J'aime bien maîtriser les choses. Et comme tu dis, après, c'est faire appel aux bonnes personnes. Voilà, comme quand Scott me dit « Ah, je t'ai jalousé parce que tu chantes au début du spectacle. Bah, » Moi, je ne sais pas faire de musique. Donc, je vais me faire accompagner pour qu'on m'écrive de belles chansons originales pour le spectacle, spécialement écrites, qu'on travaille comme les blagues, en fait. Hein, on les travaille spécialement pour que ça puisse coller parfaitement au spectacle. Et
en plus, tu avais raison, tu as dit, ouais, ça va vous rester dans la tête. Nous, on est parti, on était dans le parking. Avec la chanson. C'est drôle parce qu'il y avait devant moi, il y avait une petite fille avec un Jean-Marc en train de niquer sa race à son petit frère. Jean-Marc, genre, il essaie de lui bouffer la tête. Genre, je pense qu'il y a un grand frère qui a Jean-Marc, le petit frère et toute la famille. Il se bouffe des spectacles à fond. Et elle passait son temps pendant l'entracte entre Jerry Goulry et le début du spectacle. Et vas-y, Jean-Marc dans la gueule, t'es hyper contente. Il se prenait des selfies et tout. C'est vraiment une joie et de pouvoir... Et je la voyais mettre sa voix dessus. Et ça, c'est très, très cool parce que tout de suite, tu te sens comme l'artiste, quoi. Et ça, c'est... voilà, parce que t'as son objet, ça, c'était très, très cool. Et une autre question, est-ce que toi, quand tu fais la voix, c'est une question stupide, hein, quand tu fais la voix d'un personnage, est-ce que tu le fais en articulant avec ta bouche ou tu le fais en ventriloquie, même si tu es tout seul?
Ah, tu veux dire en répétition? Oh, vous m'avez perdu.
Je l'ai vexé. Ah non, t'es là.
Non, je suis là, vous m'avez perdu, je crois.
On t'a perdu, tu te reprends la réponse, on t'a pas appelé le début d'arrêt.
Tu vas avoir du montage. Donc tu veux dire quand je travaille?
Oui, parce que quand t'es sur scène, tu bouges pas.
Ah non, quand je travaille, je suis pas en ventriloque. Vraiment, je fais des lectures à haute voix en articulant tout comme il faut. C'est d'ailleurs un piège parce que souvent quand je me retrouve avec le personnage, parfois il y a des choses que je peux pas dire comme on les a écrites. Et c'est pareil. Oui, ça c'est une vraie gymnastique. Je crois qu'on en avait déjà parlé avec Briac.
Nous, on a parlé en off parce que c'était une spécificité de la ventriloquie. Parce que moi, j'ai dû intégrer plusieurs trucs du ventriloque. Les trucs les plus importants, c'est que c'est un dialogue. Ce qui n'était pas évident pour moi, me dire « Ah d'accord, lui, il travaille en dialogue, il y a quelqu'un qui parle, qui répond. » Un deuxième élément fort, c'était... En gros, il y a la marionnette qui fait des blagues et il y a un mec à côté qui est plus ou moins en train de réagir et de dire « Ouais, c'est pas forcément très drôle ce que tu dis. » Il me dit « Waouh !» Et Jeff, il m'a dit « Mais imagine faire un stand-up avec quelqu'un qui est à côté de toi qui te dit « C'est pas drôle ce que tu dis. »
Ouais.
Et troisième truc, c'était l'aspect ventriloquie pur.
Ouais, c'est
tous les mots ne sont pas prononçables au même ton et avec certaines assonances, certaines façons de prononcer sont plus dures en début, milieu ou fin de phrase. Et donc, des fois, il faut paraphraser et il fallait tenir en compte ça. Et moi, j'ai passé une semaine par la suite à comprendre si j'avais la bouche fermée ce que j'arrivais à dire. Et les syllabes qui étaient dures à prononcer pour plus me tromper quand je faisais un retour.
Après, c'est toute une traduction et le cerveau du public, on va dire, travaille à notre place. Donc, c'est vraiment, ça dépend où tu places les mots, ça dépend comment tu les joues. Et c'est vrai que c'est pas évident parfois de décrire en dialogue quand tu veux juste écrire des blagues. Et c'était le plus dur avec Jerry, où en fait, au départ, j'aurais pu faire juste un personnage et moi, je m'efface et je joue le personnage qui fait son stand-up tout seul et moi je suis à côté et voilà. Donc au départ, ça a été le plus compliqué. On s'est pris la tête aussi avec mon metteur en scène pour savoir à quoi je sers, quoi. Donc, quoi je sers. Aujourd'hui, ça me semble évident et c'est vrai qu'au départ, ça ne l'était pas du tout parce que j'ai trouvé ma place avec Jerry. Mais c'est au départ, c'est comme tu dis, c'est imagine, tu vas avoir Paul Mirabel et tu as un mec qui est planté à côté et qui fait « Bah non, Paul, tu peux pas dire ça. Ah bah,
ouais, quoi ?»
Tu vois, c'est pas évident. Il faut quand même lui mettre du texte au mec qui est à côté. S'il est sur scène, il faut qu'il serve à quelque chose, quoi. Ouais. Donc c'est pas évident, surtout dans un exercice comme le stand-up qui est pas dialogué normalement, quoi. D'ailleurs, il y a pas de stand-upper en duo.
Si, ça existe.
Ah, ça existe, ouais.
Il y a des frères aux États-Unis qui ont une routine de stand-up en duo. C'est des frères jumeaux en plus. Mais c'est compliqué. On a eu Oda et Dako en France qui avaient un peu ce délire-là.
Oui, il y avait Bambi et...
Younes
et Bambi aussi, ouais.
Mais tu vois qu'ils devaient définir très vite les rôles, c'est-à-dire c'est le juif, l'arabe. Il fallait simplifier le propos pour comprendre vraiment d'où ça venait. Et pareil, Jerry, là, il a eu, à mon sens, il a vraiment pris de l'ampleur quand on a dit « Ok, c'est un mec qui veut faire le stand-up, c'est une première partie. » Et c'est très clair, tu vois, dès que chacun a clarifié son rôle, lui, là, il a pris vie à ce moment-là, je trouve, Jerry.
Oui, parce que
c'est la manière de le présenter au public aussi et de dire et d'installer tout de suite qui est le personnage. C'est ça aussi qui était important. Et donc quand tu montes sur scène et que tu dis bah c'est une première partie, bon il est un peu trash, mais je lui demandais d'y aller doucement et que la première vanne c'est je m'appelle Jerry comme la souris du dessin animé sauf que c'est moi qui bouffe des chattes. Voilà. Ben voilà, t'as mis le ton et j'étais assez fier d'avoir trouvé ça sans savoir ce que ça allait donner auprès du public parce que il y avait le risque aussi de se dire oh là là, encore un personnage vulgaire, oh là là.
Ben non,
mais sauf que c'est pas la même vulgarité en fait. Jean-Marc il le sait qu'il est vulgaire. Jerry, c'est pas trop quoi.
Ah, c'est ça que j'ai zéro test aussi. Ce qui est marrant, c'est que cette blague en particulier a zéro test. Tu es arrivé, elle a fait direct chez toi, Zénith.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Voilà, il n'y a pas de test sur ces personnages-là.
Ouais. Moi, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu ça et que vraiment, on a expliqué ce que tu faisais à côté de Jerry. Et ça, c'était très drôle. Quand tu arrives, tu as vraiment monté ça hyper bien. Et donc, genre, c'est drôle que le ventriloque, il explique bah, « Excusez-moi, je suis là, mais c'est pour l'accompagner, quoi. Sinon, je serais resté en coulisses. » Et ça, c'était très, 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 très bien amené. Et du coup, c'était...
Je me suis positionné un peu comme vous, hein, les profs de stand-up.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire
que je suis là à côté de Jerry et je lui dis, alors tu vois, par exemple, là, t'as mis le curseur un peu haut, tu vois.
C'est ça, c'était nickel.
Et d'ailleurs, il le dit, moi, c'est ma première fois, ça part vite. Donc, il le dit dans le sketch.
Oui, c'était très, très, très cool.
Et il y a un aspect que tu connais pas, Scott, du travail de Jeff. C'est un aspect que moi, j'ai découvert en parallèle. C'est que dans le premier temps où on se fréquente, je me dis non, mais là, je vais à Londres. Et je dis, ah, tu devrais aller voir une comédie musicale. Il me fait, attends, non, tu n'as pas bien compris. Je vais à Londres, je vais enchaîner les comédies musicales.
Ben oui.
Et c'est ça. On peut dire que tu as vraiment une deuxième passion artistique, la comédie musicale. Et toi-même, tu as créé une comédie musicale qui a été jouée, qui va se rejouer à un moment, là.
Ouais.
Et ouais, c'est mon plus gros regret, c'est de ne pas l'avoir vue parce que. Ah oui, il y a un truc je voulais dire. Quand toi, tu as une vidéo, genre un trailer, une bande-annonce, ils sont trop bien faits. À chaque fois, je me fais avoir par tes trailers, tes bandes-annonces, parce que c'est soit épique, soit ça donne envie, soit ça reste dans la tête, mais il y a un truc qui est démoniaque dans tous tes supports vidéo.
Ben, je travaille dur, comme le reste, en fait. Hein. Je me prends la tête. Là, tu vois, tout à l'heure, on était au Zénith, j'avais... On est en train de monter une vidéo. On a tourné de la création de Jerry. Donc ça fait quelques mois qu'on tourne maintenant des parties. J'ai commencé par tourner une vidéo quand j'ai eu l'idée, le matin où je me suis réveillé en ayant l'idée de Jerry. Et puis après, on a suivi un peu toute l'évolution. les maquettes des personnages, etc., etc. Et donc, tout à l'heure, j'étais avec le cadreur qui doit monter la petite vidéo, parce qu'en plus, tout ça pour faire une vidéo d'une minute. Hein. mais c'est vrai qu'on se prend la tête sur la moindre image, le moindre... J'ai besoin que de raconter, je suis dans le storytelling tout le temps et j'ai besoin de raconter des choses. Donc, c'est vrai que là, j'ai besoin de transmettre aux gens le fait que ça n'a pas été facile. Et je lui ai dit, il m'a dit, j'ai quand même mis des moments où tu as le sourire et tout, parce que franchement, au Comedy Club, tu faisais la gueule tout le temps. Et je lui ai dit, mais le fait que je fasse la gueule, le fait que j'ai envie de tout casser, les gens, il faut qu'ils voient que c'est pas hyper simple tout le temps. Les gens, ils voient une version, pour eux, c'est la V1 quand tu montes sur scène. Et qui voient un sketch, pour eux, c'est la V1. Ils ne savent pas le travail qu'il y a derrière, ils ne savent pas le travail qu'il va y avoir après. Donc, j'ai besoin de montrer à mon public, les autres, je m'en fous, mais en tout cas, les gens qui me suivent, que je me sors les doigts pour eux, en fait, finalement. Ce n'est pas un plaisir que personnel de faire rire, c'est pour qu'eux, ils passent un bon moment. Je me prends la tête sur le moindre détail. Le diable est dans le détail, comme on dit, et sur les vidéos, j'ai besoin de raconter les choses et je me prends la tête, mais je suis très très inspiré par les comédies musicales et tous les trailers que je fais, j'essaie à chaque fois que ça ressemble à un truc que je peux voir moi quand je vais à New York dans le taxi, tu vois des bandes annonces de comédies musicales dans le petit écran du taxi et tu te dis putain mais j'ai envie d'avoir des vidéos comme ça quand je présente mon spectacle quoi. J'ai envie que ça soit de bonne qualité, du travelling, du truc, ça me fait kiffer ça donne envie aussi aux gens. Et d'ailleurs je vois de plus en plus d'artistes faire des bandes annonces comme ça maintenant. Donc je me dis aussi qu'on peut peut-être inspirer d'autres gens.
Et toi surtout ce que je vois c'est que quand tu vois un truc fort tu te dis ok comment je le prends. Comment, tu vois, la comédie musicale, tu as quand même des références. Tu m'as dit, tu es revenu en ayant vu Retour vers le futur qui est vraiment fat, tu en as vu plein. Et j'ai l'impression que quand toi, tu as fait ta comédie musicale, tu avais un niveau d'exigence et tu n'as pas lâché.
Non. Non, ce qui est compliqué d'ailleurs, parce qu'en France, on n'a pas ce niveau d'exigence. Donc, le niveau d'exigence de toi en tant qu'artiste et metteur en scène pour avoir écrit le spectacle aussi. On n'a pas le même niveau d'exigence que la production, hein, clairement. Donc, souvent, on veut faire des choses qui ne coûtent pas forcément de l'argent, mais qui coûtent du temps, qui coûtent du travail, faire des lumières, faire des belles lumières d'un spectacle, ça prend du temps, on passe des nuits blanches, on se prend la tête, on s'engueule, on se tape dessus. Mais pour avoir un résultat qui va bien, quoi. Donc, et ce n'est pas forcément de l'argent, c'est du temps et c'est... Et des gens qui vont dire, bon, c'est bon, là, ils sont éclairés, tes personnages. Ben non, en fait, ils ne sont pas éclairés comme je voudrais. Et ça joue au millimètre près. Et dans mon spectacle, c'est pareil. Dans le mien, je suis attaché à ça. Aussi bien dans les blagues que dans le visuel, quoi, ouais.
Ouais, ça me fait penser au Roi Lion à Londres. J'imagine que tu es allé le voir.
Bien sûr, plein de fois.
J'ai amené ma fille de voir et tu te dis waouh, là t'es sur le cul quoi, c'est vraiment des trucs mais grandioses quoi, voilà, dans une extravagance, et c'est ça, et on retrouve ça un peu dans ton décor, c'est waouh, c'est boum, on y va quoi.
Voilà, pour le coup, j'ai eu la chance qu'une prod me suive sur ce spectacle qui a été écrit et créé pendant le Covid. Et quand j'ai vu mon producteur pendant le confinement qui est venu à la maison avec une attestation à l'époque qui s'était signé lui-même et que je lui ai proposé des décors en 3D avec trois immeubles qui font 6 mètres de haut et qu'on ne savait même pas si on allait jouer, lui quand même, il a quand même eu les couilles de sortir l'argent et de se dire écoute, tu veux aller sur scène avec ça, et tu vas y aller, sauf quoi. On ne savait même pas si les salles allaient rouvrir, etc. Et il a lancé la construction des décors après. Donc, c'est aussi important d'être suivi par des producteurs qui mettent l'argent et qui ont pas peur, en fait.
Moi, j'ai vu la pire version, les gars, du Roi Lion. J'ai vu celle à Disney.
Ah oui.
À Disneyland Paris, où ils chantent à moitié en français, à moitié en anglais. Donc les petits comprennent rien. Toi, c'est pas satisfaisant. Il y a un truc qui,
Ouais.
y a un truc qui se fait pas
Même
bien, quoi.
les arrangements sont pas du tout. Ils font du gospel et tout. Ouais, c'est étrange. C'est étrange.
Je voulais voir un Mogador là. Je crois qu'il doit encore passer à Mogador puisqu'ils vont l'exploiter jusqu'à la fin
Ouais.
des temps.
Et ça marche bien, ça cartonne et il y a des super artistes. Moi, j'ai des potes qui jouent dessus et ça reste un beau spectacle. Puis c'est Disney, quoi.
Et donc, toi, il y a vraiment, on peut dire, il y a le décor, il y a la création lumière, il y a la création sonore. Quand tu te déplaces, c'est quoi l'équipe? Une fois que le spectacle tourne, c'est quoi l'équipe qui t'entoure? C'est combien de personnes?
Bah, on a une vingtaine de personnes sur la route. Une vingtaine de personnes qui me suivent. Alors moi, j'ai le noyau dur. Mes deux régisseurs sont Lumière qui me suivent depuis 15 ans maintenant. Donc on a commencé dans une petite camionnette et puis aujourd'hui, bah voilà, il y a quatre semi-remorques. Mais c'est toujours les mêmes que j'ai en face de moi. C'est étrange, hein, mais c'est très C'est bizarrement très familial. Alors évidemment, il y a un gros turnover parce que les techniciens, bah voilà, ça travaille sur tous les spectacles en même temps. Un coup, ils sont sur un coup, ils sont sur l'autre, etc. Mais ce noyau dur, en tout cas, moi, les gens que j'ai en face de moi dans la régie, c'est des gens que je vois depuis 15 ans, qui sont devenus des amis. Voilà, on a tout fait ensemble, les mariages, les divorces, les naissances des enfants. Et puis moi j'ai une oreillette sur scène, c'est pas pour tricher, mais c'est pour m'entendre. Et j'ai mon régisseur Boule qui est au son, qui me parle pendant le spectacle, qui me lance des vannes de temps en temps. Et des fois ça marche, et des fois ça marche pas dans l'impro. Mais parfois quand je pars dans une impro, il allume son micro, il me dit, il sort une grosse blague bien salace. Et je me lance parfois à lui faire plaisir et à sortir de la blague qui vient de me sortir, quoi.
Parce que l'impro, ça fait vraiment partie de ta boîte à outils. C'est un des trucs, je trouve, dans ton cas, qui est le plus sous-estimé. Parce que moi, tu es une des seules personnes qui fait des impros, mais des impros complexes. On a pu te voir en plateau dans l'exercice et tout. C'est Jean-Marc qui porte l'impro, mais c'est toujours bah, c'est chirurgical, c'est assez complexe. C'est pas de la tes impros, c'est pas de la reformulation à chaque fois.
Non, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi c'est sous-estimé, parce qu'on a l'impression que tout est improvisé. C'est un peu le piège. C'est que j'ai créé un personnage et une forme d'écriture qui fait qu'on a l'impression qu'on se parle et qu'il n'y a pas de vanne, il n'y a pas d'écriture. Tu vois, c'est un peu comme ça, quoi. Et forcément, bah, quand tu pars dans une impro, bah, tu vois pas trop la différence, à part vraiment quand c'est très très marqué et que tu vois que là, qu'on est complètement sorti du spectacle. Mais tu vois pas trop la différence entre une impro et pas une impro, finalement, parce que même on joue les problèmes techniques, on peut faire des faux problèmes techniques pour faire de la vanne. Et forcément, bah, quand il y a un vrai problème technique, bah, les gens, ils attendent. Ils se disent, bon, bah, là, c'est moins drôle, hein, d'un seul coup. Mais oui, mais en fait, il y a un vrai problème technique, sauf qu'ils pensent que c'est dans le sketch et non. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est un peu sous-estimé, en tout cas, on se rend moins compte de mon côté, plutôt que de dire, quand tu fais du stand-up, on voit clairement les moments d'impro, c'est-à-dire que c'est vendu comme ça, finalement. C'est-à-dire que c'est dans le sketch, et d'un seul coup, bah, souvent les impros, c'est lié avec le fait qu'on parle avec des gens du premier rang, ou qu'on fasse des vannes, j'en sais rien sur le technicien, sur ce qui se passe dans la salle, mais c'est vendu comme ça. Que nous, on peut faire des impros dans notre dialogue. C'est-à-dire que moi, je peux improviser des choses qui sont pas prévues dans le sketch et qui peuvent ressembler au sketch, quoi, finalement. On en parlait quand Scott est venu. J'ai eu un problème de prononciation dans mon spectacle et j'en ai fait 5 minutes, quoi. Mais parce que j'entendais les gens rire, je me suis dit, bon, bah, vas-y, rajoute-en, on verra. Ça va redescendre un petit peu. Si tu connais bien ton spectacle, tu pourras retomber sur tes pattes, quoi. Mais c'est pour ça que d'ailleurs Scott ne savait pas si c'était improvisé
Oui, on avait un petit
ou si
débat, on avait
c'était
un
dans le
petit
spectacle.
débat. Ça, il me faisait dire, maintenant, il est fort en impro. Ouais, mais il est fort, il est fort de tout ce qu'il fait. Donc, c'est ça, je me dis, le mec, il est tellement fort qu'il serait capable de jouer ça. Et toi, tu crois, tu tombes dans le panneau, tu crois que c'est une impro. Mais c'est ça aussi le problème du stand-up. Et ce qui est délicieux aussi dans le stand-up, c'est que quand tu vois des gens très, 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 très fort. Tu vois Chappelle, tu vois des gens comme ça. Et c'est tellement, la menuiserie de l'écriture est tellement bien cachée que tu vois juste un mec qui parle. Et donc, il y en a ça. Ah, mais le stand-up, c'est juste un mec qui parle. Bah oui, bah moi aussi, je peux parler. Tu montes sur scène et que dalle. Et parce que c'est tellement... Ça, voilà, on a tellement caché les versions 1, 2, 3, 27 que ça a l'air fluide et c'est juste ça. Mais ça, c'est rigolo parce qu'après, quand tu essayes, t'es mort. Donc,
mais c'est ce que j'aime, moi, dans l'humour. C'est pour ça que j'ai été vachement... J'ai été vachement bouleversé, mais vraiment, ça m'a apporté quelque chose de très important dans mon travail et dans ma manière de voir l'avenir de mon travail. C'est que je n'arrive pas à imaginer, en tout cas, les stand-uppers que j'ai vus sur les Netflix et les différents mecs que tu as pu me faire connaître, Briac, je n'arrive pas à les imaginer écrire. C'est tellement bien fait que je ne les imagine pas derrière un bureau et un ordinateur en train de faire « Alors là, tac-tac, la blague sur... » Non, je n'imagine pas ça, quoi. Et pourtant, ils ont une heure de spectacle. Forcément, ils l'ont fait à un moment. Et moi, c'est ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, moi, parfois, c'est de voir un humoriste et de comprendre les blagues, de les voir arriver voilà. C'est une autre forme de... notre forme d'écriture, mais quand t'as compris les mécaniques, bah après, bah quand t'es dans le métier, forcément, le public peut-être le voit un peu moins, mais toi, quand t'as compris la mécanique de la blague, parce que chacun a sa propre mécanique, finalement, même s'il y a des choses que tu peux apprendre dans des bouquins, etc., mais après, les mots que tu utilises, les formes de punchline que tu peux utiliser, etc., chacun utilise la sienne, quoi, finalement. Quand tu essaies de copier les autres, ça marche pas forcément en réalité. Donc ce qui est bien, c'est de ne pas imaginer que le mec a écrit son truc, quoi, et qu'il te le sorte comme ça. Ça me fait kiffer vraiment.
Mais oui. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il y a comme une formatation du cerveau, une courbe d'apprentissage où tu apprends, genre, dire le mot drôle à la fin d'une phrase. Ça, c'est un truc qui s'est marqué dans les bouquins. Mais quand tu l'as fait tellement de fois, quand tu as une pensée, même spontanée, un truc improvisé, déjà ton cerveau se démerde pour que le truc qui fait rire arrive à la fin. Et ça, et on dirait que c'est naturel, mais c'est une déformation presque. Et après, c'est comme si tu parlais une langue différente, quoi. Et
ça, nous, notre travail, c'est rendre ça simple. Ouais. C'est vraiment, il faut que ce soit facile. Et c'est un compliment qui est à la fois... presque une insulte, c'est quand les gens ils t'ont vu faire, ils se disent ah ben je pourrais le faire aussi.
Ouais.
Parce que tu as rendu ça tellement simple. Et typiquement, quand je veux expliquer, c'est pas évident d'expliquer des fois ce que fait Jeff. Quand je veux expliquer aux gens ce que fait Jeff, j'ai fait ok, maintenant tu vas faire des blagues. En même temps, tu vas faire du vélo et tu vas jongler.
Voilà.
Et là, tu vas comprendre que tu as un mec qui est en train de faire, qui maîtrise. Deux aspects très particuliers qui sont la ventriloquie, la manipulation de marionnettes, et en plus qui fait des blagues. Et donc et tu as jamais l'impression qu'il fait que ce qu'il force et tout, parce qu'il nous rend ça simple, il nous rend une grille de lecture super simple, que tu es concentré sur la marionnette qui fait des blagues. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de très complexe où il se donne lui pour pas que tu le vois, quoi.
Ouais, c'est le fameux syndrome du copain qui est drôle en société et qui va pas forcément être drôle quand il est sur scène, hein, finalement. Et on en connaît tous des gens, ah, t'es drôle, tu devrais monter sur scène, mais non, en fait, parce que parce que c'est un travail, en fait. C'est un vrai travail de monter sur scène. Et mais bon, si les gens pensent que ça peut être simple, tant mieux, c'est que notre travail est réussi. Moi, j'ai été sur mon premier spectacle, par exemple, j'ai eu une grosse, grosse frustration, c'est que les gens ne voyaient pas la performance. Et moi, ça me gênait. Ça me gênait que les gens s'attachent à Jean-Marc et se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il est drôle, ce Jean-Marc !» Et sans se dire « Mais le mec à côté, c'est lui, hein, en fait. »
Oui.
Et c'était une grosse frustration chez moi, c'était mon ego, je pense. Et aujourd'hui, ça me fait marrer. Aujourd'hui, je me dis, Jean-Marc peut être plus drôle que moi. C'est comme ça. Les personnages sont définis de cette manière-là. Mais au départ, j'étais très frustré et je sortais de scène en lui disant, mais ils se rendent pas compte, ils se rendent pas compte de tout ce que je fais sur scène. Mais c'est comme ça veut dire que l'illusion fonctionne finalement.
Puis tu as un duo, tu vois, n'oublie jamais, toi tu te considères tout le temps en duo.
Bah, c'est le fameux clown blanc et l'Auguste, hein, voilà, il y a toujours y en a toujours un des deux qui fait des conneries et l'autre qui dit, ah bah c'est pas bien, hein. Mais j'ai construit quand même les autres personnages un peu autrement. C'est vrai que le côté miskine avec Jean-Marc, je l'ai moins avec Jackie, par exemple, où je prends un peu plus le dessus sur Jackie parce que c'est quand même un mec qui me fait marrer et je le pousse un peu dans ses conneries pour qu'il nous sort des trucs sur sa femme ou sur son fils, ça me fait marrer. Alors
J'adore Jackie.
que Jean-Marc, je lui dis plus de se calmer, quoi. C'est
D'ailleurs,
différent.
attends, pendant que tu parles de Jackie, quel est le mot qui désigne une sorte de fromage qui c'est une blague de bite? Parce que un copain à moi, il m'avait parlé de. C'est un infirmier qui était venu avec moi. Il dit qu'à l'hôpital, ils appellent ça le Saint-Vergeron. Et là, toi, tu avais un truc, tu as dit un truc, c'était mortel. Et là, je lui ai demandé. Quelle était la blague et tout, machin. Bon,
Ah, je
c'est
me
ça.
souviens pas. C'est
Non,
une blague
c'était.
de bite?
Non, oui, c'était un truc avec
Il y en
un
a beaucoup.
slip ou quoi. Oui, c'est ça, mais avec le
Avec un slip.
fromage, je sais plus. Voilà, je sais, je saurais pas. Je reviendrai voir au spectacle et je dirai,
Ouais,
c'est ça.
ça me revient pas là, mais il parle beaucoup de bouffe. Jackie, à un moment donné, il parle de sa femme
Ouais.
qui fait de la
Et
sauce.
oui, c'est un truc comme ça. Il me dit, c'est la mayonnaise. Non, c'est pas la mayonnaise, c'est autre chose. Mais ça me fait, quand tu parlais, ça me fait penser à il y a un bouquin de Jimmy Carr, comédien stand-upper anglais, et dit que c'est comme dans la magie, les gens voient le lapin sortir du chapeau. Ils se disent, oh, comment là, il a fait le lapin pour aller dans ce chapeau, etc. Ils ne voient jamais le magicien enlever la merde sur le lapin. Ça fait 1 heure qu'il est dedans et qu'il est en train de faire caca dedans. Et ça, ils ne voient jamais. Et là, ils vont, ah, c'est merveilleux, waouh! Mais ouais. Et bon, c'est comme ça.
Et sur l'aspect, le coup and roll qu'on a tous, tout à l'heure, j'ai dit une phrase à Jeff et il s'est moqué de moi. J'ai dit, être drôle, c'est une façon de vivre.
C'est vrai. J'ai dit que j'allais le mettre en story.
Ouais, parce que ça faisait un peu cliché, mais en fait, c'est une conversation qu'on a éternellement. C'est est-ce qu'un stand-upper ou un humoriste, il est toujours humoriste? Est-ce que tu es drôle en dehors? Est-ce que tu es drôle à l'intérieur? Et c'est vrai que moi, j'ai du mal, en plus, les années passent, j'ai du mal à différencier qui je suis sur scène de qui je suis à l'extérieur parce que c'est le même type de blague. Et je me lève le matin pour faire des blagues, tu vois. Je veux que ma vie ait des blagues et des gens qui me fassent des blagues. Et toi, Jeff, tu as forcément, comme tu es en duo sur scène.
Mais moi, c'est différent parce que dans la vie, je peux avoir un humour un peu plus trash ou un peu plus rentre-dedans comme l'est Jean-Marc. Et souvent, on me dira, ah, mais non, c'est Jean-Marc qui devrait dire ça. Mais en fait, non, dans la vraie vie, c'est moi. Et on oublie que ce qui sort de la bouche de Jean-Marc, si j'ose dire, ça sort de ma tête, quoi. Donc, oui. Mais en même temps, ça me planque un peu parce que il y a beaucoup de gens qui s'imaginent pas que les horreurs que peut sortir Jean-Marc peuvent venir de mon cerveau, quoi. Ou du cerveau de mes auteurs. D'ailleurs, je rends hommage à mes auteurs parce que je travaille pas tout seul. Et que je travaille avec Pierre Thévenoud, qui est un mec en or, qui a un talent de dingue, justement dans la punchline et dans la fulgurance, et un autre auteur qui s'appelle Arnaud Gidoin, qui lui, pareil, un génie de la dégueulasserie, et dès qu'il peut m'envoyer un truc dégueu, il me l'envoie, et ça me plaît bien parce que c'est mon style d'humour, et voilà. Et j'aime bien travailler, voilà, comme tu disais tout à l'heure, il faut savoir déléguer aussi. Il faut savoir s'entourer et voilà. Il y a beaucoup d'humoristes qui planquent un peu ça et qui vont pas dire qu'ils ont cette hauteur avec eux planqués dans une cave. Mais moi j'assume complètement parce que plus on est de fou, plus on rit et que forcément. il faut plusieurs cerveaux pour pouvoir faire le meilleur du travail.
Et puis, tu n'as pas pris les plus mauvais, hein, tu vois, quand tu vas chercher un TF2 ou quoi, tu sais que, waouh, on a vu le spectacle, on sait que c'est très solide. Et on me demande souvent, les jeunes artistes me demandent souvent comment se passe pour les co-auteurs, comment se fait le mariage, la rencontre. Et j'ai toujours, les gars, on ne peut rien forcer. Il faut que l'artiste principal, il voit un intérêt à aller vers le co-auteur et que le co-auteur, il fasse ses preuves. Il amène des choses sur la table et on voit si ça marche, ça ne marche pas. Et ce n'est pas grave de commencer à être co-auteur, entre guillemets, sans être payé, juste en disant, écoute, je te propose X blague, je te propose X version de ce sketch et on voit si ça match entre nous. Il faut bien que ce soit ça. Et c'est impossible d'expliquer à un auteur et dire, écoute, ce que je t'écris, c'est génial. Soit l'auteur principal qui va l'interpréter sur scène, il comprend que c'est cool et que ça l'améliore. Et s'il ne comprend pas, c'est que si vous n'êtes pas la bonne personne, et ce n'est pas grave, on n'est pas fâché.
Non, et puis encore une fois, c'est le public qui décide. Hein. C'est-à-dire que moi, que ce soit Pierre ou Arnaud, ils peuvent m'écrire des dingueries qui me font plier de rire. Sur mon stand-up perso, j'ai Jérôme Commandeur qui m'a aidé aussi. C'est pas le dernier des nulos. Hein. Et quand j'ai reçu la V1 du sketch, on pleurait de rire en lisant. Et bah, tout le monde ne peut pas jouer du Jérôme Commandeur, quoi. Donc forcément, bah, toutes les vannes ne fonctionnent pas. Donc c'est le public à l'arrivée qui a le fan à cut. Et même si tu as les meilleurs auteurs du monde, si les gens n'ont pas envie d'adhérer à la blague, ils n'adhèrent pas, quoi. Donc et tu vois, je ne pouvais pas savoir au départ quand j'ai demandé à Pierre de m'aider. Je pouvais pas savoir si son humour allait plaire à mon public. Moi, ça me faisait marrer. Après, il fallait attendre le résultat, quoi. Donc aujourd'hui, je peux dire que les blagues de Pierre, en tout cas les blagues qu'il écrit pour moi, fonctionnent. Pareil pour Arnaud, mais sur mon deuxième spectacle, ça a été plus compliqué avec mes auteurs. Ça a été plus compliqué parce qu'on écrivait des choses qui nous plaisaient. Et pas forcément au public, et je me suis moins retrouvé que dans ce spectacle-là, par exemple. Mais on apprend en travaillant, quoi.
Mais c'est une alchimie, parce que toi, tu es positionné quelque part avec ton public qui va t'autoriser quelque part certaines choses et d'autres qui ne vont pas adhérer, alors que la même blague pour le public de quelqu'un d'autre peut être mortelle. Et ça, c'est
très, très frustrant. On en a parlé plein de fois avec Briac, là, parce que moi, ça a été une vraie frustration là, sur les débuts de Jerry, où j'étais très fier de décrire des vannes très techniques, vraiment de pur stand-up, etc. Et de voir que les premiers rires, en tout cas, pas au Comedy Club, mais en tout cas, les premiers rires que j'avais dans les Zéniths, c'était « je t'encule », les plus gros rires sont là, quoi. Et ça, c'est très, très énervant. C'est très, très énervant quand t'es hyper fier d'une vanne. Tu te dis, merde, quoi. Putain, elle est parfaite, elle est ciselée, etc. Et tu te dis, celle-là, il y a tout. Dans cette blague, il y a tout. Et bah, elle fait pas tant rire que ça. La plus grosse blague qui va faire rire derrière, elle est un peu plus populaire, on va dire. Je sais même pas comment utiliser quel terme pour être pas, sans être péjoratif. Mais en tout cas,
plus évident, moi, hein, qui aime...
Ouais, complètement.
Et il y a eu un arbitrage, il y a un vrai arbitrage sur chaque blague, là, se dire, est-ce qu'elle n'est pas assez explosive, assez drôle, est-ce qu'elle est trop abstraite, ou est-ce qu'on n'a pas fait le chemin pour le public, pour ton public, pour l'amener. Et chaque blague, là, on est obligé de se poser la question, se dire, écoute, on la laisse vivre, mais on doit la séquencer autrement, faire d'autres ruptures, ou alors on l'élimine au profit des blagues qui explosent directement à la gueule. Et c'est pas évident de se séparer de bonnes blagues, parce que les blagues, sur le papier, elles marchent, ces blagues-là.
Ouais.
Mais force est de constater qu'elles ne marchent pas aussi fort que les blagues explosives.
Non. Non, non, j'avais... on avait réécrit des blagues là, sur ce spectacle pour Jackie, justement, très, très absurdes. Voilà, je les ai faites au premier spectacle et deuxième et le troisième. Et j'ai vu que le public adhérait pas du tout à cette absurdité, au fait qu'il se puisse... puisse avoir rendez-vous avec un médecin légiste pour une angine qui lui dise qu'il est décédé depuis 17 heures. bah, ça ne fonctionnait pas. Et il a fallu dire qu'il a soigné cette sciatique en allant voir un ostéopathe qui lui a mis un doigt dans le cul. Voilà, ça a fini comme ça, quoi. Et ça, c'est très, très frustrant. C'est très, très frustrant, même si j'aime les rires. Et c'est dommage, en fait. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Voilà, comme je l'ai dit au début, je ne suis pas un amoureux de mes blagues. Donc, moi, ce qui compte, c'est vraiment le public, quoi. C'est vraiment le public.
Mais on discutait dernièrement, là, de justement, on parlait de ça un peu, du paradoxe des gros mots, et l'interview de Patrick Sébastien qui dit « Moi, à mon enterrement, je veux mon cercueil avec une grosse bosse au niveau de la bite, juste pour emmerder les bien-pensants. » Donc, finalement, il y a comme une étiquette, une règle d'étiquette. Tu peux pas dire de gros mots au travail. Tu peux pas. Le moment où les gens se lâchent, c'est en bagnole, quand il y a quelqu'un qui peut pas les entendre. Et donc, si tes personnages, quand ils disent ça, c'est comme une libération, quoi. Waouh, on est ensemble. Et c'est quelque part, je pense, cathartique. C'est un peu comme quand tu vas voir un match de foot et que tu insultes la maman de l'arbitre. Voilà, quoi. Et là, tout le monde est ensemble et tu peux. C'est là où tu peux être le plus vulgaire possible. Tu peux dire ce que tu veux et c'est accepté. Alors que partout ailleurs en société, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que, voilà, on va te regarder un peu, hein, ouais, pauvre con. Et ça, mais c'est ce que j'ai vu, là. Quand je suis heureux que tu aies partagé la blague. C'est moi qui bouffe les chattes parce que j'étais là. Et parce qu'on était là, c'était un stand-up. On dit, putain, et les gens, les parents avec les enfants,
c'est la première blague. Rire. C'est la première blague du spectacle.
Bam, voilà. Et voilà. Et ici, on n'est pas là pour faire semblant. C'est ça que j'apprécie. On n'est pas là pour faire genre d'être très poli, d'être là, genre, non,
mais encore calme, une fois, quoi. Encore une fois, si les gens ne rigolent pas, je la fais pas, hein, la blague.
Mais oui. Donc,
voilà. C'est moi, j'écris quand j'écris cette blague, je vois mon metteur en scène plié en deux. Quand je lui dis, on va commencer le sketch comme ça, ça va être la première vanne de Jerry, ça va être ça. Et Dieu sait que c'est compliqué de commencer un sketch. Pour n'importe qui, c'est dur de trouver la première vanne, le premier rire qui va installer ton sketch. Il y a plusieurs styles, il y a plusieurs façons de commencer un sketch. Il y a la rupture, il y a pas mal de manières, mais c'est tellement dur, ça, et la vanne de fin pour partir, c'est dur, 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 quoi. C'est dur, dur, dur. C'est le plus dur, je pense, de se prendre la tête là-dessus. C'est l'entrée, la sortie, quoi. Comme quand on écrit un spectacle, hein, c'est le début d'un spectacle, la fin d'un spectacle, c'est... voilà, entre les deux, on fait ce qu'on peut, mais le plus important, c'est ça, c'est comment on attrape les gens et comment on les relâche, quoi. Et dans un sketch, c'est pareil. La première vanne, elle va tout de suite installer le personnage. Et par exemple, au Comedy Club, j'ai jamais réussi à installer Jerry comme il fallait. Donc, ça prend un peu plus de temps, quoi. Il faut lancer 3-4 vannes avant que le public comprenne la mécanique. Et il a fallu que j'arrête le Comedy Club pour trouver cette vanne
C'était génial. C'était génial. Parce que oui, c'est ça. Les gens, ils sont là, ah oui, ça va commencer, voilà, bam, ah oui, c'est commencé. Ah oui, on est dedans, allez, on y va. Génial, franchement.
Voilà, moi, je vais voir à Bercy. Donc ça, c'est la très, très, très grande date qui va conclure, qui est sur la fin de cette tournée. Bercy, il te reste une dizaine de zéniths là à faire pour mettre fin à ce spectacle, tout simplement. Que ce ouais. spectacle aura eu un début, un milieu, une fin
ouais.
d'exploitation. Et ce qui est... Et ouais, pareil, on m'a souvent posé la question, quand c'est que tu sais que le spectacle est fini, à un moment, tu arrêtes, c'est tout. À un moment, il faut se dire, j'arrête, je passe autre chose.
Ouais, moi, j'ai toujours, que ça soit sur le premier, le deuxième et celui-ci, j'ai toujours défini une date de fin. Pour moi, ce qui est important, après, quand tu es en développement, c'est différent parce que tu peux jouer un spectacle pendant 10 ans avant d'être connu. Et puis, t'as plusieurs exploitations d'un même spectacle. Quand tu commences mon premier spectacle, il a duré 4 ans, mais en fait, ça faisait 10 ans que je le jouais. Donc, mais ce qui est important, c'est de définir... moi, j'aime bien les deadlines, en fait. Donc, que ça soit la première date du spectacle pour savoir pour quand j'écris. C'est important pour moi, la première date. Là, j'ai demandé à mon producteur ma première date de rodage pour savoir quand le truc va tomber. Il faut que je sois prêt, quoi. pour moi, j'ai besoin de savoir, mon cerveau a besoin de savoir ça pour juger combien de temps je vais pouvoir écrire le spectacle. Et après, j'ai besoin de savoir quand est-ce que ça s'arrête aussi. Parce que avant d'en avoir marre, je me dis, tiens, à partir de ce moment-là, voilà, ça sera la fin, ça sera les dernières dates. Et puis, c'est important de marquer la fin aussi pour le public et qu'il puisse faire le deuil du spectacle et passer à un autre, quoi.
Et qu'il se dépêche de venir voir ce spectacle-là parce qu'il ne va pas
être disponible. Peut-être que le prochain ne sera pas aussi bien, donc
oui,
profitons-en.
Voilà, oui, c'est ça.
Ah, le dernier petit truc, tu es le premier invité depuis que Scott est là. Tu es le premier invité. Et avant, on avait toujours une tradition dans ce podcast. C'est à la fin du podcast.
Je sais ce que tu vas me demander parce que j'écoute.
C'est de prendre vos notes, Scott, Jeff. Vous prenez vos notes et vous allez dire la dernière blague que vous avez écrite, la dernière blague que vous allez faire vivre sur scène. Donc, si vous voulez, moi, j'étais prêt. Je vous dis celle que j'ai eue récemment.
OK.
Alors, la dernière réflexion que j'ai eue, c'est un pote qui m'a dit qu'il avait fait l'amour avec des crocs. Et quand il dit ça, il ne faut pas comprendre qu'il a fait l'amour à quelqu'un avec des crocs. Il faut comprendre qu'il a fait l'amour à des crocs. Voilà, ça va être ça que je vais essayer de défendre dans les prochaines semaines.
Ben, moi, j'aime bien. J'aime bien.
Ben, moi, la mienne, c'est... Je l'ai dit l'autre soir, c'est que quand je sors avec ma fille, je l'amène au restaurant, elle a 14 ans. Déjà, on arrive, on nous dit « Bonsoir, monsieur, dame ». Ça me fait déjà un peu bizarre. Et quand je vais pour payer, qu'on me demande si je paye tout. Limite, on pense que je suis le sugar daddy de ma fille. Et la blague que j'ai en tête, c'est « Putain, apprendre à être sugar daddy, j'aurais choisi une plus belle. » Voilà, mais bon. Pour ça que... Voilà.
Ça me dit
Jeff.
Mais écoute, moi, la dernière note que j'ai, je l'utilise sur scène, alors je peux pas... bon, voilà. Donc, c'est une vanne sur les célibataires de Jerry, qui dit donc que les célibataires, c'est quand même la sous-race de l'humanité. C'est le seul être humain qui prend sa douche quand il est certain qu'il va se faire bouffer les couilles. Voilà.
Et vous avez l'air de rien, mais la prise de tête sur cette blague.
Et il surenchérit derrière en disant, il y en a même qui se lavent que les couilles, voilà.
Ça, c'est très, très chic.
C'est très, très chic, exactement.
Non, mais se faire bouffer... Mais moi, j'étais impressionné par le « se faire bouffer les couilles ». C'est recherché.
Parce que le pire, c'est qu'il a eu la prémisse. Il avait cette phrase en tête, c'est la souffrance de l'humanité.
Mais pourquoi ?
Et pendant des jours, il m'a rendu fou parce que c'est tellement dur d'écrire une blague avec une prémisse aussi précise.
Ah ouais.
Il n'en démordait pas.
Non.
Et après, on trouvait des trucs, mais qui boitaient. Mais
ouais.
Il boitait, qui repartait dans notre direction.
C'était pas à la hauteur de la phrase. La sous-race de l'humanité, il faut qu'il y ait un truc derrière, quoi. Et après, tu m'as trouvé, c'est le seul être humain. Et alors après, derrière, mon pote, c'est le seul être humain. Je pense que là, c'est la phrase qui a résonné le plus dans ma tête pendant des nuits et des nuits. À ne pas réussir à m'endormir, c'est le seul être humain qui fait quoi, putain de merde.
Bouffer des couilles, c'est la première fois que je l'ai entendu. Donc,
Et à côté, je vous dis, ouais, il y a souvent quelque chose qui m'arrive, même dans quand je recherche un objet ou que je recherche quelque chose, je me dis, je sais pas ce que je cherche, mais quand je vais le trouver, ça sera évident. Et toi, c'était la même chose. Quand tu as trouvé le truc, tu as dit, c'était évident que c'était cette blague-là, qu'elle allait à cet endroit-là. Tu savais pas quand tu l'as trouvé.
J'ai repris ma vie, je me suis dit, alors qu'est-ce que je faisais quand j'étais célibataire ? Et je me souvenais que quand j'avais rendez-vous avec une fille, je prenais ma douche.
Bizarre.
Ah ouais.
Et tu te mettais un petit coup de lingette. Bon, voilà. Bah, on va peut-être pas s'arrêter là-dessus, mais...
Non, mais alors, je te jure que cette blague de se laver, de porter une attention particulière aux soins intimes, ça fait super longtemps que j'essaie de la défendre, que je parle aux gens. Je dis, mais vous aussi, ça, vous le faites, vous lavez plusieurs fois cet endroit-là dans la journée, si vous savez, vous êtes sûr que vous allez avoir une relation. Et tous mes potes font, non, je vois pas de quoi tu parles et tout. Je fais, putain, alors je suis fou, alors il n'y a que moi. J'ai fait, ouais, alors c'est dégueulasse.
Bah oui. Ah
oui, moi, je l'ai fait une blague un peu similaire, mais c'est, tu prends ta douche avant le date, mais après, t'es nerveux et tu vas faire pipi 47 fois. Et c'est ça, genre, t'as mis de l'effort à te laver, tu veux rien. Voilà, tu veux que ce
mais
soit
les femmes font pareil, hein, il n'y a pas.
Bah oui, c'est ça,
un
c'est
truc
ça.
masculin.
C'est pareil, voilà.
D'ailleurs, ça me donne envie de redévelopper la blague.
C'est que dès que je t'ai entendu le dire, les femmes vont pareil. Je me suis dit, ah, il a vu qu'il y avait un tag juste derrière.
Ouais, ouais, ouais.
C'est sans fin.
Je pense que je vais développer ça pour demain.
En tout cas, merci Jeff, merci pour la force que tu as donnée. Nous, avoir des gens qui sont dans ta dimension, qui sont dans ta catégorie, qui nous disent on écoute le podcast, on apprécie, et qui le recommandent et qui viennent ici témoigner, nous, ça nous inspire, ça va inspirer les auditeurs. À la fin de la journée, je sais que c'est bête ce que je veux dire, mais j'ai quand même un mec qui a plus de 20 ans de carrière, qui a toujours de la joie sur le parcours, qui a toujours le regard braqué sur l'avenir, sur le prochain spectacle, les prochaines dates, les prochaines blagues. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de se dire qu'à ce niveau-là, il y a encore des choses à apprendre, des choses à faire et un plaisir à créer.
Et en plus, t'as Jeff Panaclock, c'est un truc de fou. Il fallait la faire. D'accord.
Non, mais surtout, merci à vous parce que je pense que beaucoup de gens vous écoutent pour progresser ou pour faire, tout simplement faire. Et moi, si je peux donner un conseil perso, c'est de s'amuser. Vraiment, c'est un métier où quand tu t'amuses pas sur scène, le public, il le ressent tout de suite. Et pour avoir vu... pour encore avoir beaucoup travaillé sur Jerry, on est allé se planquer dans des comedy clubs pour voir des stand-uppers travailler. Et je vois qu'il y en a qui sont trop dans la technique, qui sont trop dans je veux réussir ma blague, etc. Et qui, en fait, ne font pas le lien avec le public. Ils ne s'amusent pas. Et le rire, c'est pour le coup, c'est à ce moment-là que tu as besoin de devenir le bon pote qui fait rire, en fait. Et voilà, pour ceux qui ont envie de faire ce métier et de faire rire les gens, c'est de s'amuser. Et même une blague qui marche, si à un moment donné elle vous plaît moins, jouez-la autrement et tordez-la dans l'autre sens pour continuer à vous amuser, parce que ça amusera le public. Plus vous kiffez sur scène et plus le public pourra kiffer avec vous, quoi.
Sur ce, merci beaucoup. Passez une bonne semaine.
8h du mat et je vais aller prendre mon petit-déj. Merci.
8h du mat, c'est horrible.
Allons, ciao, tout le monde.
Ciao.